Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 434 du podcast Jean Actuel Amati. Très heureux de vous retrouver pour parler des matchs à venir en NFL ce dimanche. À mes côtés, Victor Roulier est là. Bonjour Victor.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Victor, on se retrouve donc pour parler de ce qui va se passer en semaine 3, pardon, j'allais dire 2. Débat, affiche, prono, code, c'est la formule de l'émission du jeudi. Vous avez l'habitude maintenant. C'est une émission qui vous est présentée par Unibet, évidemment. Est-ce que je vous donne le sommaire de la semaine? Non, vous allez tout découvrir au fur et à mesure parce que c'est plus fun comme ça. C'est parti avec le débat.
What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go!
Depuis plusieurs années en NFL, la NFC Est règne jalousement sur le domaine de la médiocrité. Équipe incomplète, mal gérée, mal coachée, quarterback médiocre, blessure. Mais en 2021, cette suprématie de la nullité est contestée par la terrible AFC Sud. Ici, les Texans côtoient les Jaguars pendant que les Colts se débattent derrière les Titans. Victor, c'est toi qui as proposé le sujet, je le dis à nos auditeurs, et parce que c'est un point en effet qu'il faut soulever. Est-ce que tu penses que l'AFC Sud est désormais la plus mauvaise division en NFL?
Ah, moi, je pense qu'il y a trois candidats. Je rajouterai la NFC Nord dans cette histoire. Mais pour répondre à ta question, oui, je pense que l'AFC Sud est aujourd'hui la plus mauvaise division. Ça reste toujours important de faire cette analyse par division parce qu'on n'oublie jamais qu'il y a un qualifié en playoff par division, quoi qu'il arrive. Et on l'a vu l'année dernière avec la NFC Est, ça peut être une équipe assez mauvaise qui se qualifie. Là, l'AFC Sud, c'est quand même catastrophique. Houston. Bon, on en a parlé, reparlé, l'affaire Deshaun Watson, c'est une catastrophe. Et à côté de ça, tous les bons joueurs quasiment sont partis. Il n'y a que des vétérans dans tous les sens. Attention, on va en reparler, ils ne sont pas mauvais depuis 2 semaines. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas aussi catastrophiques qu'on aurait pu le penser. Mais ça reste une équipe qui est dans le fond du trou et on ne voit pas comment ils peuvent s'en sortir. Les Jaguars, la reconstruction est très difficile, là, pour l'instant. Les 2 premières semaines, ça a été extrêmement compliqué. Les Colts, c'est compliqué aussi, 2 défaites. Carson Wentz a déjà 1 pied et 2 chevilles en mauvais état. Donc, au bout de 2 matchs, même aux Eagles, ils n'avaient jamais été aussi amochés au bout de 2 matchs. Et il reste les Titans, qui se sont bien repris, qui était quand même une équipe très attendue, qui s'est crashée totalement en première semaine et qui s'est bien repris face aux Seahawks. Alors, ça reste une victoire difficile.
Moi, je vais dire, je trouvais que la question était bonne parce qu'en fait, quand tu as dit AFC Sud, sur le coup, je me suis dit, ah bah non, l'AFC. Et puis en fait, parce que mine de rien, autant on était habitué à la constance dans la médiocrité de la NFC Est, autant la NFC Sud, c'est quand même assez soudain. C'est-à-dire qu'il y a un ou deux ans, c'était en tout cas une des divisions les plus prometteuses de la NFL. C'est-à-dire que, et je vais même te dire, il y a un an ou même avant l'affaire de Sean Watson, c'est-à-dire qu'on disait les Colts sont un bon quarterback, d'être une très très bonne équipe, ils ont des super lignes, etc. Les Titans sont en playoff, commencent à être réguliers, ont Derrick Henry qui est dans la course au MVP, Tannehill, il renaît, etc. Également. Les Texans ont de Sean Watson, ont un franchise quarterback, ont DeAndre Hopkins, encore une fois, si on revient un an et demi plus tôt. Et il restait les Jaguars qui étaient en fond de tableau, mais on pouvait dire, ils vont avoir le premier choix de la draft, Trevor Lawrence, nouveau coach, etc. Donc c'était plutôt une division qui était prometteuse. Et en fait, il y a quand même la chute de Deshaun Watson qui les précipite vers le fond de la division. Je pense que la chute de Houston fait qu'ils sont précipités ça précipite toute la division dans la médiocrité. Tu l'as dit, les Colts, c'est un quarterback, mais en fait, on sait toujours pas si Carson Wentz sera celui-là. C'était plus rassurant presque avec Philip Rivers alors qu'il était en pré-retraite l'an dernier. Donc c'est plus si sûr que ça, on sait plus trop quel va être le niveau autour, la ligne a eu un peu plus de mal en ce début de saison parce qu'il y a eu des blessures. Donc en effet, on se retrouve avec juste les Texans en valeur sûre, les Titans pardon, ça commence par un T aussi. Mais voilà, sur le plan statistique, il y a que deux victoires pour la AFC Sud depuis le début de la saison, à égalité avec la NFC Nord que tu as cité, et au-dessus, il y a la NFC Est avec trois victoires. Je serais tenté quand même d'enlever tout de suite la NFC Nord du débat. Tu l'as cité, statistiquement, en effet, ils sont à égalité avec la NFC Sud. Après, la qualité quand même en haut de la division avec les Packers et Aaron Rodgers fait quand même qu'on est face à une équipe qui peut jouer le titre, en tout cas à minima sa conférence. Je pense que ça préserve cette division d'être si basse, même s'il y a tellement d'incertitudes sur les postes de quarterback à Chicago, à Détroit, des équipes en construction permanente. Mais voilà, on avait quand même deux équipes de la NFC Nord en playoff l'an dernier avec les Bears. Donc moi, je serais tenté, ils sont pas au mieux, hein, je dis pas que c'est une des meilleures divisions de la NFL, mais je serais tenté de les exclure du débat là et de me concentrer sur la NFC Sud et la NFC Est. Est-ce que ça te va?
Oui, non, mais tout à fait. Mais je veux dire, il y a quand même trois mauvaises équipes. Mais en effet,
c'est vrai.
Le fait qu'il y ait les Packers tellement au-dessus fait que ça sauve, entre guillemets, la division.
Alors, est-ce que justement, tu parlais d'équipe de tête. Est-ce que ce qui compte le plus pour dire qu'une division est mauvaise, c'est l'équipe de tête ou c'est les équipes du fond?
Par exemple, si on continue la comparaison à FC Sud et NFC Est, il y a quand même les deux équipes de tête, Titans et Cowboys. On peut être optimiste ou pessimiste pour des raisons tout à fait légitimes. Mais c'est des bonnes équipes. C'est des équipes, demain, tu les vois en play-off, personne va dire « Oh là là, quelle surprise !» Je veux dire, les Cowboys, c'est une très bonne attaque et c'est une défense qui fait mieux que ce qu'on attendait. Donc, j'ai envie de dire que ça se joue au niveau de la moitié de cette division. Parce qu'on a de l'autre côté Jaguars et Giants où on n'en attend rien, en fait.
Après, si je peux me permettre, les Cowboys, c'est une très bonne équipe qui a quand même pas joué les playoffs ces deux dernières années, alors que les Titans, oui.
Certes, mais enfin, l'année dernière, à mon avis, si Prescott se blesse pas, il jouait les playoffs. Hein,
ah oui, mais les blessures, oui. Ça fait partie du jeu. C'est ça qui fait que justement, la NFC Est aussi est très mauvaise. Parce que toi-même, tu sais qu'à Philadelphie, s'il y avait pas autant de blessures, il serait peut-être meilleur aussi.
Oui, bien sûr, mais je trouve que pour le coup, Prescott, le fait qu'il soit revenu aussi bien fait que je suis confiant pour les Cowboys. Après, voilà, au milieu, donc on se retrouve avec Colts Texans et Eagles Washington. Moi, j'ai envie de dire que Washington, qui est un peu le numéro 2 de la conférence, moi, j'imaginais même numéro 1 avant le début de la saison, même si Heineken n'est pas mauvais, il faudra un quarterback. Mmh. Mais c'est un peu les Colts de l'année dernière, si tu veux. Il y a une ligne offensive qui tient la route, il y a des skill players, il y a une ligne défensive qui est très bonne, il y a une très bonne défense. S'ils arrivent à rajouter le bon quarterback à ça, pour moi, ça roule. Alors, la défense, c'est pas aussi bien qu'attendu cette année.
Le début d'année, pour l'instant, ils prennent des camions de garde. Hein, quand même.
Ouais, mais ils vont se réveiller. Et au niveau des Eagles, alors certes, je suis pas impartial, hein, d'accord, mais je trouve que c'est moins mauvais qu'attendu. C'est-à-dire que moi, j'attendais une équipe qui joue le top 5 de draft. Et voir une victoire convaincante contre les Falcons et une prestation convaincante contre les 49ers où finalement ils perdent tout seuls avec un mauvais coaching, mais ils sont dans le match et une équipe bien coachée aurait gagné ce match. Je me dis, c'est pas la panacée pour rendre hommage à notre cher Raoul, mais c'est encourageant. À l'inverse, les Texans, même si c'est pas mauvais début de saison, ce qui me plombe avec les Texans, c'est que à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, c'est quoi le projet? Il n'y a rien sur quel joueur tu comptes.
Non, mais alors voilà, c'est là où on en revient aux critères. C'est pour ça que je te demandais. Il y a évidemment l'immédiat, mais est-ce que le futur rentre en compte pour dire que c'est la plus mauvaise division ou pas? Il y a aussi ça qui est dans l'équation. Parce que si on prend les franchise quarterbacks, par exemple, ça peut être un critère. On peut dire quelles équipes ont un franchise quarterback. En AFC Sud, tu peux dire que il y a Ryan Tannehill, du coup, aux manettes pour Tennessee, il y a Trevor Lawrence. C'est pas bon pour l'instant, mais ils ont un franchise quarterback a priori pour les Jaguars. Les Colts, c'est un demi franchise quarterback. Et Houston, bon, c'est zéro de fait, puisque là ça semble terminé pour DeSean Watson. En NFCS, il y a combien de franchise quarterback?
Pour l'instant, il y en a un. Voilà. Alors, éventuellement, s'il y en a deux, mais après Tannehill, pour moi, c'est un game manager plus. Je dirais pas jusqu'à appeler franchise quarterback vu comment joue les Titans.
Non, mais alors quand je dis franchise quarterback, pour moi, c'est quarterback indiscutable.
Titulaire ultra solide, quoi.
Voilà, indiscutable. Okay.
Oui, non, mais de toute façon, il y a deux prismes. Si tu regardes le prisme des quarterbacks, on peut mettre la NFCS dernière. Si tu regardes l'ensemble des équipes, et en effet, moi, j'ai quand même cette projection court terme en me disant Washington, ok, je vois comment ils ont construit. Je vois comment ils vont se relancer. Les Eagles, on verra, mais il y a quelques jeunes joueurs, des Devonta Smith, des choses comme ça, tu peux construire autour. Les Colts, j'ai presque l'impression qu'ils arrivent déjà en fin de cycle, sans avoir rien réussi. Et les Texans, c'est déjà, il faudrait avoir des tours de draft.
Mais tu vois, t'es généreux avec la défense de Washington à dire qu'ils ont pris 400 yards par match pendant 2 semaines, mais qu'ils vont se reprendre. Et tu peux pas être généreux avec les Colts en disant que leurs lignes vont peut-être se reprendre et qu'ils vont dérouler au sol pendant les semaines à venir, que la défense va se reprendre.
Ils sont pas au même niveau de maturité, en fait. Pour moi, si on prend l'image d'un joueur, Washington, ils sont en année sophomore. Donc, parfois, tu prends un petit mur en année sophomore. Mais pour autant, tu peux continuer à progresser. Ils sont un peu Baker Mayfield, tu vois. Tandis que les Colts, moi, j'attendais à ce que ça soit la saison. La saison où là, ça y est, tout est en place. Ils ont tout construit.
J'avais plus l'impression que c'était l'an dernier, honnêtement. Mais il leur manque des cibles, il leur manque pas mal de choses. Après, pour moi, c'est très serré. Pour dire, si pour moi, c'est l'immédiat. Si on dit c'est la meilleure ou la pire division de la NFL, etc. Si tu prends les oppositions directes, en tête, Titans, Cowboys, je pense que si tu le joues 10 fois, ça fait 5-5 ou 6-4 pour l'un ou l'autre, ça me choque pas. Donc, on va dire que c'est égalité. Derrière, je suis pas sûr que les Colts battent pas les trois autres équipes de la NFCS, non? Je pense que sur un match.
Ça dépend de la santé du quarterback.
Ouais, mais tu vois, sur un match, là, ils ont résisté aux Rams un moment. Je trouve pas que ce soit aberrant. Alors, je pense qu'ils tapent
les Giants. Pour moi, Colts Washington, t'en joues 10, il y a 5-5.
Ouais, alors, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils tapent les Giants. Là, il n'y a pas discussion. Sur Philadelphie, je pense que ça peut tomber plus souvent en faveur des Colts que l'inverse sur 10 matchs. Sur Washington, en effet, c'est le plus compliqué, mais. Encore une fois, c'est pas le jeu au poste de quarterback de Washington qui est non plus. Je donne un léger avantage à Washington aussi. Allez, je veux bien. Et après, en fait, ce qui tue vraiment l'AFC Sud, c'est que les Texans et les Jaguars se feraient plier par tout le monde, quoi. Sauf les Giants, tu me diras, hein, parce que.
Moi, je pense que les Giants ont montré suffisamment pour, si on reprend l'idée de sur 10 matchs, je pense qu'aujourd'hui, ils sont moins pires, si tu me permets l'expression, que les Jaguars. Ouais. Et ils font jeu égal avec les Texans, voire ils peuvent être devant si la défense se réveille. Donc, moi, je pense quand même que c'est moins médiocre.
Pour le coup, les Giants, c'est quand même une franchise qui est enfermée dans la loose. Depuis 2013, ils n'ont qu'une seule saison en bilan positif ou équilibré.
Oui, depuis le bateau, ils sont à 18-48. Depuis la fameuse photo du bateau, ils sont à 18-48 et c'est la pire équipe de la NFL.
C'était quand la photo du bateau pour ceux qui n'ont pas suivi? Parce que c'était donc Odell Beckham et plein d'autres qui avaient pris une pause ou ils étaient sur un bateau.
Beckham et tout. Et c'est il y a 5 ans, un truc comme
oui,
ça.
Oui, mais tu vois, en vrai, même pas, c'était 2017, non, ou 2018. Mais bref, dans les faits.
Cinquième saison, je veux dire.
Dans les faits, ça remonte même à avant, quoi. 2013, ils sont à 7-9 et depuis, ils n'ont qu'une seule saison à plus de 7 victoires. Donc.
Non, c'est... j'entends, mais il y a quand même une défense sur laquelle tu peux construire.
Ouais, ouais. Non, mais oui, je pense que les Giants tapent les Jaguars. Ouais. Donc oui, moi, je pense que c'est le fond, en fait, de la NFC Sud, de l'AFC Sud, je vais pas y arriver. C'est le fond de l'AFC Sud qui la plombe totalement. Je pense que la
blessure de Vance.
Et la blessure de Vance. C'est vrai que ça aurait été solide avec Vance. Mais tu vois, si on prend sur les effectifs de l'année, si on dit Vance dans 3 semaines, il va bien pour au moins 2 semaines. Non, mais oui, je pense que en effet, il y a match et je pense qu'il y a match sur le haut et que le bas de la division plombe en fait, plombe l'AFC Sud et que là-dessus, ouais, on peut dire que. Mais ça veut quand même pas dire que c'est brillant en NFCS non plus.
Hein, ah non, clairement.
Là, on est dans la bataille de Wolves.
Encore une fois, moi je te dis Carson Wentz, c'est un peu facteur X parce que si t'as le Carson Wentz de 2017,
ah bah oui.
Alors là, voilà.
Là t'as les Titans et Colts qui sont au-dessus des autres.
Si t'as le Carson Wentz de 2020, là ça devient très compliqué. Donc.
Alors pour terminer, pronostic, d'après toi, quelle sera la pire des deux dans 3 ans? Parce que c'est à peu près les cycles NFL.
La pire des deux dans 3 ans. Alors,
soyons positifs, la meilleure des deux dans 3 ans.
D'accord, ça marche. Je vais dire la NFC Est. Parce que Dallas est parti dans une ère Prescott qui a l'air de durer. On croise les doigts pour sa santé. Washington, il y a encore de la draft, il y a encore du cap. Donc, ils vont construire sur ce qu'ils ont. Ils ont des jeunes joueurs. Je vois pas de raison que ça parte mal. Les Eagles, il y a quand même 3 premiers tours l'année prochaine, enfin 2 ou 3 selon que Carson Wentz. En tout cas, il y a 4 choix dans les 2 premiers tours. Il y a des jeunes sur lesquels construire. On peut imaginer que d'ici 3-4 ans, ils soient corrects.
Donc c'est plus jeune et il y a des meilleures bases quoi en NFC.
Ouais. Après, j'ai envie de te dire si Trevor Lawrence devient le Trevor Lawrence qui était attendu à la sortie de l'université. Ça peut rebattre les cartes.
Ouais, mais après, c'est vrai que pour l'instant, il y a tellement à construire autour de lui. Je te dirais même que Tannehill a 33 ans, donc c'est vrai que ça va aller vite. Les Colts n'ont toujours pas de quarterback et il m'en manque un. Et donc, Houston est dans une panade aussi au poste de quarterback. Donc oui, c'est plus prometteur en NFC Est. Tu pensais prononcer ces mots-là un jour? C'est prometteur en NFC Est.
Ouais, après, c'est prometteur, mais je me méfierai toujours de cette division qui arrive toujours à nous surprendre de nuit.
Évidemment, tout est question de référentiel, c'est prometteur pour la NFC Est par rapport à la NFC Sud, qui est donc officiellement la pire division de la NFL. Cette année, c'est gravé dans le marbre, je fais une petite référence à Super Ciné Battle, qu'on salue, mais voilà, c'est la pire division de l'année, c'est la NFC Sud. Nous, on passe à l'affiche. L'affiche de la semaine, elle ressemble à une finale de la NFC. Les Buccaneers, champions en titre contre les Rams, plus ambitieux que jamais avec Matthew Stafford. Les deux équipes ont gagné lors de premiers matchs. Les Rams ont battu les Buccaneers l'an dernier, 37-24. C'était au mois de novembre avec Jared Goff aux commandes. La défense de Saint-Louis, quel âge j'ai. La défense de Los Angeles avait limité Tom Brady à 216 yards. Il avait été intercepté 2 fois. Les Rams n'ont plus le même coordinateur défensif. Mais est-ce qu'ils font partie de ceux qui peuvent limiter la terrifiante attaque de Tampa, Victor? Sachant en plus qu'on a un Antonio Brown incertain, il y aura un peu moins de cibles, il est sur la liste Covid au moment où on se parle.
Oui, je pense que vraiment, là où il y a le plus de questions, c'est la défense des Rams contre l'attaque des Buccaneers. Pour 2 raisons. La première, c'est la confrontation des lignes. Je ne vais pas vous apprendre qu'il y a un certain Aaron Donald qui n'est pas trop mauvais sur la ligne des Rams et qui, en général, comme il y a 2 joueurs sur lui, libère un peu des espaces pour les autres. Et d'autre côté, il y a une ligne de Tampa Bay que je trouve très bonne, mais pas au niveau de domination de l'année dernière. Notamment Tristan Wirfs, que j'adore personnellement, mais cette année, c'est un peu plus compliqué. Même Jensen et Kappa, tout le côté droit, je trouvais un peu décevant pour l'instant. Il n'y a que 2 matchs, il faut relativiser, mais du coup, c'est à surveiller parce que vraiment, qui gagnera ce duel de ligne peut définir le match. Et l'autre question, c'est imaginons que la ligne offensive fasse suffisamment. Le gros choc pour moi, c'est les receveurs contre les cornerbacks des Rams.
Alors, une question à la fois, Victor. Les lignes d'abord. Les Rams en sont à 6 sacs en 2 matchs. Il y aura de la pression. Tu l'as dit, Aaron Donald, on sait mettre la pression sur Tom Brady, notamment au milieu de la poche. C'est la clé pour battre les Patriots, mais donc pour faire déjouer les attaques de Tom Brady depuis 15 ans. Est-ce que les Rams peuvent faire ça et déjà gagner le match là-dessus?
Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Ils ont clairement une carte à jouer. Et ce front seven, c'est pas que Aaron Donald. Il y a des joueurs de talent dans ce front seven. Faut pas l'oublier. Il y a des joueurs comme Leonard Floyd. Il y a aussi de très intéressant de côté Justin Hollins, qui est pas mauvais du tout, qui était pas mauvais l'année dernière et qui est pas mauvais cette année. Donc pour moi, il y a les armes. Il y a les armes pour embêter Brady et pour le limiter. Alors après, voilà, il faudra marquer les points de l'autre côté. Mais oui, il y a des armes pour ça.
D'accord. Est-ce que si la pression n'arrive pas, ils ont assez de monde pour tenir les receveurs de Tampa? Mike Evans, Chris Godwin, etc. Très longue liste. Sans Antonio Brown, mais il y a quand même énormément de monde, Rob Gronkowski notamment, qui pose énormément de problèmes aux défenses sur les deux premières semaines. On sait qu'il y a Jalen Ramsey, donc qui va scoltiner un receveur et qui devrait le faire plutôt bien. Mais derrière, il y a beaucoup de monde. Comment tu stoppes Rob Gronkowski?
Ben c'est ça la question, parce que Mike Evans, pour l'instant, est assez en dedans dans ce début de saison. Godwin fait un peu trop de drops. Mais le vrai problème, c'est Gronkowski. Ça fait des années qu'on ne l'a pas vu comme ça. Parce qu'il n'y a pas que les 4 touchdowns en 2 matchs. Il y a une performance complète du début à la fin. Donc là, ça va être un gros test. Alors, il faut voir si c'est des linebackers type Reader ou le safety Jordan Fuller qui scoutine ça. Mais quoi qu'il arrive, normalement, Gronkowski aura l'avantage sur ce match-up. Donc, clairement, ça va être la clé. Ça va être stopper le tight end parce que Ramsey, il fera le boulot contre Evans ou Godwin. Et même de l'autre côté, c'est Darius Williams. Darius Williams, c'est plus que solide en cornerback numéro 2. Donc vraiment, la clé, ça va être de défendre le slot des Buccaneers et ça va être de défendre les tight ends. Oui.
Et pour toi, c'est faisable?
Pour moi, c'est faisable. Moi, je pense que la défense des Rams a une vraie carte à jouer et peut prendre un vrai avantage sur les Buccaneers.
Et alors, l'attaque des Rams, elle, est-ce qu'elle peut prendre le dessus? J'ai dit que les Rams en sont à 6 sacs en 2 matchs. Tampa, c'est que 2 sacs sur les 2 premières semaines. Alors oui, il y a un très solide milieu de la ligne avec Ndamukong Suh et Vita Vea qu'on a souligné dans l'émission de mardi. Mais ils ont aussi des defensive backs jeunes. Il y a des blessures. Sean Murphy Bunting qui sera absent suite à sa blessure. C'était le premier match, hein, d'ailleurs, dès le premier match. Tout a l'air d'être réuni pour un gros match de Matthew Stafford. Sean McVay a de la réussite en plus hein, face à Todd Bowles, le coordinateur défensif de Tampa. Bon, là, ça a l'air d'être réuni pour qu'il fasse un gros match, non, Matthew Stafford?
Eh bien, ça va être le test qu'on attend tous. Ouais. Est-ce que le Los Angeles de Matthew Stafford, enfin les Rams de Matthew Stafford, peuvent faire ce que les Rams de Jared Goff ne pouvaient pas faire, enfin, ou en tout cas, ne pouvaient pas faire de façon constante sur toute une saison? Là, ça va être le vrai test. La deuxième semaine a été compliquée face aux Colts. C'était moins fluide que la première semaine. Mais bon, il y a les armes. Hein. Woods, Stafford, évidemment.
Cooper même Cup, le jeu j'adore.
Alors, je vais y venir à Cooper Cup, mais même le jeu de course, pour le coup, est pas ridicule du tout. Et il y a ce facteur X, Cooper Cup. Il y a un moment, il va falloir qu'on... C'est une discussion que j'ai ouverte un peu sur Twitter, voilà. Pour moi, Cooper Kupp, aujourd'hui, c'est un top 10 receveur de la Ligue. Et il y a un monde où on considère qu'il est aux portes du top 5. Parce que vraiment, ce qu'il fait cette année, c'est hors norme. Et déjà, l'année dernière, c'était très bon. Il y a 2 ans déjà, moi, je me souviens, quand on était allé à Londres, il avait explosé les Bengals. Enfin, il y a un moment, il va falloir qu'il soit reconnu.
Tu es en train de me donner une idée de papier. Je me dis qu'au mois de décembre ou janvier, il faut qu'on fasse une série d'articles top 10 à chaque position sur ce qui s'est passé cette année.
Ah oui, non, mais il y a autant de top 10 que de personnes qui regardent le foot. Mais oui, c'est toujours intéressant. Et, 271 yards en 2 matchs. Ouais. Et allez regarder, hein, parce qu'il va prendre des catchs compliqués. Il n'y a pas que des catch and run. Hein. Il n'y a pas que je prends la balle et je cours. Il va au mastic. Et il est impressionnant de progression année après année.
Je me dis qu'on peut même faire ça en milieu de saison autour de Thanksgiving ou quelque chose comme ça. Je suis désolé, je suis en train de faire le planning éditorial de la rédaction en pleine émission. Bon, quel scénario pour toi? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de points, pas beaucoup de points? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est souvent ces matchs où on dit ça va être une avalanche de points. Et puis finalement, on a quand même des qualités en défense. Il y a un peu de tension, donc ça peut mettre un peu de temps à rentrer dans la rencontre. Je ne suis pas persuadé qu'on ait une explosion de points. Ça, je ne serais pas étonné, dans une certaine mesure, hein, mais tu vois, un 27-23 ou un truc un peu plus… pas plus de 30 chacun, quoi.
Je sais pas, parce que la défense des Buccaneers m'inquiète, personnellement. Ils étaient dans un état de grâce l'année dernière, mais des Devin White et Jamel Dean cette année, c'est pas extraordinaire. Même sur la ligne, je suis pas impressionné. Donc, on le sait, les Buccaneers, ils l'ont fait l'année dernière, et même Tom Brady a tendance à le faire. Parfois, ça peut passer à côté d'un match ou deux. Et ben, moi, j'ai l'impression que c'est le genre de match où ils vont passer à côté. Et du coup, alors c'est toujours dur à prévoir, évidemment, mais moi, j'imagine une victoire plutôt confortable des Rams. Alors, n'hésitez pas à venir sur Twitter une fois que les Buccaneers auront gagné de 20 points pour me dire que
t'inquiète pas, t'as pas besoin de leur dire, ils le feront si c'est le cas.
mais pour le coup, moi, j'ai envie de voir une victoire confortable des Rams.
Ok, ben moi, écoute, je vais prendre plutôt match serré, et contre ces matchs serrés, je prends Tom Brady. Donc, ce sera Buccaneers pour moi. On passe au pronostic.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special!
It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong.
Yes, sir.
We're going to work on three. One, two, three, work!
Les pronostics et les scores, puisque ça y est, hein, le groupe de pronos s'emballe sur TDA. Les scores, donc, Victor, la semaine dernière, Raphaël, meilleur score avec 12, 11 points pour Victor, Grégory et moi. Lucas, 10, Raoul, 9. Au classement général, Greg, 21, Raphaël, 20, Victor, 19, moi-même, 18, Raoul et Lucas, 17. Avant de débuter cette nouvelle semaine, petite stat quand même envoyée par la NFL ce matin. Sache que après deux semaines de compétition, les quarterbacks sont à une moyenne d'évaluation de 96,5. C'est un record NFL devant les années, d'après toi ?
L'année dernière ?
Exactement. 2019 ouais. Enfin, 2020 et 2019. C'est-à-dire que c'était, tous les voyants sont ouverts pour les quarterbacks dans la ligue actuellement. Passes complétées, c'est pareil. On est sur la plus haute moyenne de passes complétées après deux semaines. Enfin voilà, donc on est dans un jeu plus offensif et plus surtout aérien que jamais. Je trouvais la stat intéressante à vous transmettre avant la rencontre. Les rencontres donc de la semaine, et ça commence évidemment avec le match du jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h20 du matin, Texans Panthers. Sam Darnold qui va avoir l'occasion de continuer à se mettre à l'aise. L'histoire de ce match, c'est quand même la progression de la défense des Panthers face à David Mills, le rookie qui sera donc quarterback titulaire pour les Texans puisque Tyrod Taylor est blessé, et pas de bol pour lui. Carolina, c'est 10 sacs en deux matchs, c'est le plus gros total NFL. Victor, David Mills, est-ce qu'il a une chance de survivre ? C'est un rookie, tu le connais mieux que moi, donc je te laisse me dire s'il a une chance face à ça.
J'ai du mal à imaginer qu'il puisse avoir une chance. David Mills, en deux secondes, c'était le premier lycéen à sa sortie de high school. Il a été à Stanford, mais heureusement, il a été très souvent blessé. Donc, il a finalement très peu joué à Stanford. Donc, on a vu des belles choses, mais pas tant que ça en termes d'évaluation. C'est un game manager, joueur de poche. Hein. C'est pas une double menace ou voilà. C'est un quarterback, on va dire, un peu traditionnel. Comme on peut en voir assez régulièrement en NFL. Ça va être très compliqué hein, parce que les Panthers, ils ont, contre la course, ils ont pris moins de 100 yards en deux matchs, ils ont réalisé 10 sacks, c'est le meilleur score en NFL. Vraiment, cette défense, elle arrive à maturité. Tous ces rookies d'année dernière qui sont sophomores ont progressé. Ça arrive à maturité, ça devient vraiment une défense qui fait peur. Et à mon avis, David Mills, il risque de passer une très mauvaise soirée. Et ça risque de faire le match, hein. Globalement. Il va falloir jouer vite et efficace avec un play calling. Et c'est pas un lanceur profond. Hein. Ce qui serait bien, c'est un play calling à la Tom Brady, plein de petites passes, plein de petites screens, essayer d'avancer comme ça. Mais je suis pas sûr que Houston ait le talent pour faire ça.
Non, là, ça va être très compliqué, comme tu le disais, pour une première. Donc, Panthers pour moi. Panthers pour toi aussi?
Oui, Panthers. Et puis, Sam Darnold va pouvoir tranquillement progresser.
Il faut valider les choix à l'oral, hein, c'est important dans le podcast. Dimanche 26 septembre, Buffalo Bills, Washington Football Team. Alors, je suis un peu déçu par l'attaque des Bills, beaucoup déçu par la défense de Washington qui prend plus de 400 yards par match, je l'ai dit tout à l'heure. Quelle escouade va enfoncer l'autre? C'est-à-dire que est-ce que les Bills se relancent sur le dos de la défense de Washington ou est-ce que la défense de Washington se refait la cerise sur le dos de l'attaque des Bills?
Mais moi, je crois au réveil de l'attaque des Bills. Je pense que la défense des Bills est en mode 2019, elle est impressionnante. Donc, elle risque de complètement annihiler l'attaque de Washington.
Clairement, c'est ça qui va faire la différence. Hein. Je parlais de l'autre match-up, mais je pense que la défense des Bills va faire la différence dans le
match. Non, mais et du coup, les Bills, enfin l'attaque des Bills va devoir faire un peu, pas forcément beaucoup, mais pour gagner ce match. Par contre, oui, Josh Allen, Dieu sait que je l'adore, hein, mais il faut qu'il se réveille. Parce qu'il gagne 35-0, mais c'est un trompe-l'œil. Hein. C'est un trompe-l'œil. C'est pas le Josh Allen de l'année dernière. Il va falloir retrouver des automatismes.
Bills. Browns, Bears, Justin Fields, titulaire, donc après la blessure d'Andy Dalton. C'est pas un cadeau face à cette défense, quand même, Victor. Il va arriver contre Myles Garrett et Denzel Ward. Il y a plus facile pour commencer.
C'est sûr. Et en plus, il risque de pas être forcément aidé par une ligne ou des coureurs extraordinaires. Donc, le problème, c'est le casting autour. Il est NFL ready, comme on dit souvent. Il est prêt pour la NFL. C'est sûrement le quarterback le plus mûr de cette draft. Il va faire avec ce qu'il a. Je pense qu'il peut faire de très belles choses, mais ça risque d'être un peu court quand même pour affronter cette défense. Surtout que de l'autre côté, il y a un moment, la défense des Bears, c'est plus la terrible défense que tout le monde attend. Bon,
ils interceptent trois fois Joe Burrow à la suite quand même la semaine dernière. Mais je suis d'accord avec toi, hein, elle est plus aussi dominatrice qu'avant.
Non, mais il y a des super joueurs, il y a du Khalil Mack, il y a du Eddie Jackson, mais bon. Je pense que ça sera compliqué. Le rouleau compresseur des Browns, notamment au sol, risque d'être assez violent.
Cleveland. Lions, Ravens. Les Lions sont quand même 12e attaque NFL après deux journées. Hein. Ils ne sont pas si catastrophiques. Bon, après, ils prennent 38 points par match. Donc, ça devrait un peu compliquer la chose face à Baltimore et Lamar Jackson. Moi, je vais aller sur les Ravens sans trop de surprise. Est-ce que tu vois Détroit avoir un petit espoir là-dedans de stopper Lamar Jackson et sa meute?
Non, je pense que les Lions ont joué une mi-temps sur deux dans les deux premiers matchs. Donc là, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils jouent 4 cartons. Mais ça sera trop dur face à des Ravens qui ont repris une confiance de malade en écartant les Chiefs la semaine dernière.
Les Jaguars reçoivent les Cardinals, un nouvel épisode de la terrible vie NFL de Trevor Lawrence qui risque donc de dépasser son total de défaites sur 3 ans à la fac. Hein, il a perdu que 2 matchs au total à la fac en comptant les playoffs. Là, c'est inévitable. Les Cardinals sont meilleurs absolument partout. Je vois pas comment Jacksonville a une chance dans ce match.
Oui, je vois pas non plus. Je pense qu'ils sont au fond du trou. Urban Meyer est obligé de faire des communiqués où il implore les gens de lui faire confiance. Par contre, moi, ce qui m'intéressera de voir, c'est si les Cardinals limitent les erreurs. Parce que en fait, contre les Vikings, ils doivent gagner le match de 15 points. Ils se tirent des balles dans le pied continuellement tout le match. Et ils avaient un peu tendance à faire ça de l'année dernière, ça leur coûte peut-être les playoffs. Donc, il y a un moment, OK, c'est explosif, c'est beau, c'est tout ça, c'est génial. Mais faut jouer propre. Et j'aimerais bien voir un match où ils jouent propre du début à la fin, un peu comme ils l'ont fait face aux Titans, mais qu'ils le fassent régulièrement et qu'ils limitent les erreurs.
Donc, Cardinals pour tout le monde.
Évidemment.
Les Chiefs reçoivent les Chargers, toujours à 19h, très beau match de division. L'an dernier, les Chargers ont poussé les Chiefs en prolongation lors du premier match de Justin Herbert et les ont battus en fin de saison, mais Patrick Mahomes était au repos. Est-ce que les Chargers vont être dans le match grâce à la défense des Chiefs, notamment?
Alors oui, mais là encore, il va falloir limiter les turnovers parce que depuis le début de la saison, ça produit des yards à n'en plus finir. Par contre, 25% des drives offensifs des Chargers ont fini en turnover. C'est de très loin le pire de la NFL depuis le début de la saison. De très, très loin. Je crois que le deuxième est genre à 15. Donc vraiment, il va falloir limiter l'interception de Herbert en end zone contre les Cowboys. Ça ne doit pas arriver. Donc, les Chargers peuvent embêter les Chiefs, peuvent marquer beaucoup de points, mais il va falloir être efficace, pas faire seulement des yards, mais aussi réussir à mettre le ballon dans la end zone. Donc, ils ont des armes pour, mais il va falloir être là encore plus propre.
Kansas City.
Kansas City quand même, parce qu'il y a tellement de talent offensif Kansas City.
Quand même. Bah, c'est ça, il y a toujours ça quand même. C'est que même si ça s'engage sur un rythme élevé, bon, Patrick Mahomes peut quand même. Surtout qu'il sort d'une défaite. Hein.
Oui, oui, en général, ils sont un peu énervés après une défaite.
Voilà, pas négligé. Patriots, Saints, des Saints pas faciles à lire. Quel visage vont-ils proposer? Est-ce que pour toi, c'est plus l'équipe? Alors évidemment, hein, tu vas me dire que ça, la vérité se situe entre les deux, mais est-ce que c'est plus l'équipe séduisante de première semaine ou l'attaque au ralenti de la seconde?
Cette équipe est en train de devenir Jameis Winston, mais à l'échelle de l'équipe. Tu peux avoir une équipe qui gagne 37 points et tu peux avoir une équipe qui perd 20-0. Je sais pas quoi penser. Non, je pense quand même que voilà, il y a eu l'accident à Carolina. Ça va leur mettre un peu, voilà, ça va les mettre face à leurs limites. Et un coach comme Sean Payton trouvera les solutions pour adapter le plan de jeu. Donc, ils vont pas être cataclysmiques. Comme ils l'ont été face à Carolina. Mais je reste persuadé qu'une équipe des Patriots qui gère bien, bien coachée, avec un Mac Jones qui fait pas d'erreur, avec un jeu au sol qui est efficace, ça risque de... Moi, je donnerais l'avantage dans ce duel de coach ultra, ultra expérimenté. Je donnerais l'avantage à Belichick. Et je dirais juste, Jesse Jackson, il y a un moment, il va falloir qu'on en parle aussi, parce que dans le top 10 des cornerbacks, il sera bien placé.
C'est difficile parce que je trouve que les Saints ont un potentiel d'explosivité, je ne sais pas si c'est très français, supérieur, mais en effet, les Patriots sont un peu plus sérieux, mais moins explosifs. Moi, je vais aller sur les Saints, histoire justement de changer un peu, parce que j'ai un peu de retard au prono, donc je me dis, essayer de gratter un point par semaine, je tenterai sur celui-là. Ils peuvent être un peu plus explosifs. Je ne sais pas quel est le bilan d'ailleurs de Sean Payton contre Bill Belichick, mais... c'est un match serré, je le trouve assez dur à pronostiquer, donc j'irai sur les
Saints. Ah, c'est sûr.
Les Giants contre les Falcons, alors celui-là est difficile à pronostiquer, mais surtout à cause de la nullité des forces en présence. On remercie d'ailleurs, on parlait des Giants tout à l'heure, merci au retour de Saquon Barkley qui change la donne, puisque Daniel Jones est actuellement le meilleur coureur des Giants. je dis ça parce qu'il est dans mon équipe fantasy, Saquon Barkley, et que je l'ai un peu mauvaise depuis deux semaines. Ne jamais prendre des joueurs des Giants en vrai de fantasy, c'est une très mauvaise idée. Victor, est-ce que ces Giants peuvent aller décrocher leur premier succès parce qu'ils sont à 0-2, mine de rien, les Falcons aussi, mais les Falcons ont un petit début de quelque chose en attaque la semaine dernière avec Kyle Pitts, avec Matt Ryan qui commence à dire vous inquiétez pas, on va progresser, on a progressé d'une semaine sur l'autre. Moi je vais te dire, je vais tenter les Falcons parce que j'ai plus confiance en Matt Ryan qu'en Daniel Jones.
Ben, moi aussi c'est les Falcons. Bon, je tiens à dire que même si t'as Saquon Barkley, t'arrives quand même à me battre en fantasy. Donc,
c'est vrai.
Ta vie n'est pas trop difficile.
C'est vrai. Non, c'est vrai que je suis à 2-0 en fantasy cette année. Pour l'instant, je touche du bois.
Je pense que, enfin, les Giants, pour moi, c'est la grosse déception de la saison. Autant que la ligne offensive soit une catastrophe, je m'y attendais. Par contre, que la défense soit aussi friable, c'est une surprise pour moi. Et clairement, l'expert draft que je suis, expert avec un grand H, hein, comme on dirait chez Trash Talk, l'expert draft que je suis n'en peut plus de regarder ce match pour savoir qui sera top 3 de draft. Non, je pense que les Falcons, ça va mieux. Kyle Pitts, Matt Ryan, Calvin Ridley, ça commence à tourner. Donc, oui, je les vois gagner ce match.
Et puis, ils ont joué que 3 quarts temps contre les Buccaneers, mais 3 quarts temps, ça peut suffire à gagner contre les Giants.
Oui.
Les Steelers contre les Bengals, choc de division, deux équipes qui sortent d'une défaite. Ben Roethlisberger devrait jouer malgré une douleur pectorale. C'est un duel entre deux belles lignes offensives. Hein. Moi, j'ai envie de dire ça surtout. C'est ce que je dirais si j'étais ivre, en tout cas. Parce que sinon, il va y avoir du sac, en théorie. Là, on est sur deux quarterbacks blessés ou retour de blessure, mais alors, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour eux parce que... ils n'ont pas grand-chose devant eux, quoi. Donc, Steelers à l'expérience, évidemment, hein. Mais pas forcément un match très joli en vue.
Ouais, moi, je ne suis pas convaincu de cette équipe des Steelers. OK, ils ont battu les Bills grâce à la défense et les équipes spéciales. Très bien, mais alors l'attaque est très inquiétante. Donc, moi, je suis toujours aussi inquiet pour les Steelers que j'étais avant le début de la saison. La ligne, ça ne va pas. Big Ben, ça ne va pas bien. Même les Chase Claypool et tout sont pas décisifs, donc je pense qu'ils l'emporteront ici parce que vraiment les Bengals, c'est trop faible. Mais je serai pas d'une confiance exceptionnelle non plus.
Titans Colts, on parlait de la division AFC Sud, ben vous voyez, les deux leaders s'affrontent. Bon, on a quand même des Titans qui semblent plus complets et surtout plus sûrs de leur force. Parce que là, on est sur des Colts qui ne savent pas encore vraiment ce qu'ils ont avec Carson Wentz et puis une ligne offensive qui a du mal à se remettre en route à l'image d'un Quentin Nelson un peu en difficulté sur son retour de blessure. Donc, les Titans sont des favoris évidents de ce match, non?
Oui, et puis il y a quand même ce côté, tu as perdu le premier match, tu es mené 14 points dans le deuxième, à l'extérieur, tout le monde te voit commencer à 0-2. Et là, Derrick Henry se réveille, tu fais le retour, tu gagnes le match en prolongation. C'est le genre de match qui lance une saison, hein. C'est le genre de match qui soude un groupe. Donc, je pense que sur cette lancée-là, surtout, c'est à domicile, oui, en plus. Donc, je pense qu'ils vont faire le travail. Après, on ne sait même pas qui sera quarterback pour les Colts, vu qu'il y a une sorte d'opacité autour de ce qui se passe pour Carson Wentz, qui a dit « j'ai une cheville qui va plus mal que d'autres ». OK, mais est-ce que tu vas jouer ? On ne sait pas pour autant. Donc, il y a un moment, il y a moins d'incertitude. Donc, je vais dire Titans.
Titans également. On passe à 22h05, Broncos-Jets. On a beaucoup parlé des Jets mardi. On a dit qu'il n'y avait rien ou presque. Et on a dit que Teddy Bridgewater, c'était la force tranquille. Donc là, ça me semble être un pronostic évident pour les Broncos, évidemment.
Mais tout va bien aux Broncos. Je veux dire, à part la blessure de Jerry Jeudy, qui est embêtante. Mais...
Et Bradley Chubb.
Mais Bradley Chubb, c'est quand il n'est pas à l'infirmerie que c'est une info. Mais...
Malheureusement.
Là, malheureusement, ça fait partie de ces joueurs talentueux, mais trop blessés. Mais bon, la défense, quand même, on performe. Il n'y a aucun problème. Et l'attaque fait le boulot aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison. Enfin, ils vont gérer le match à la Bridgewater. Ils vont le gagner tranquillement. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
Raiders-Dolphins, 22h05. Tua Tagovailoa absent. Ce sera Jacoby Brissett à sa place. On a donc des côtes cassées du côté de Tua Tagovailoa. Bon, ce bon Jacoby Brissett, il semble quand même pas trop en mesure de suivre le rythme d'une attaque des Raiders qui est en feu depuis le début de la saison.
Est-ce que de toute façon, ça change vraiment fondamentalement les choses, que ce soit Tua ou Jacoby Brissett? Mais...
Ce n'est pas moi qui l'aurais dit.
Ça, c'est une autre question. Mais oui, les Dolphins, comme j'ai dit, 35-0, Sobis, c'est un peu un trompe-l'œil. La défense n'a pas été aux fraises, mais l'attaque, Davante Parker et Jalen Waddle font ce qu'ils peuvent, mais la ligne est cata, le quarterback ça suit pas, le jeu de course est inexistant, hein, Myles Gaskin, il y a des moments où on se demande s'il est sur le terrain, donc il y a un moment, c'est trop, et du coup, même si, je pense que la défense va donner des problèmes aux Raiders, je pense pas que les Raiders vont dérouler offensivement, mais je crois tellement pas à l'attaque des Dolphins, que même si ça finit en 17-6, ça sera à l'avantage des Raiders. Quoi.
D'ailleurs, je m'adresse à 10 autres personnes seulement, mais qui sont les gens avec qui on est dans la Ligue Fantasy. Si vous voulez Devante Parker contre un running back, ma boîte de messages et d'échanges est ouverte. Donc, les Raiders pour tout le monde.
Oui.
Rams, Buccaneers, on a dit les Rams pour toi, les Buccaneers pour moi. Les Vikings qui reçoivent les Seahawks. Alors, c'est deux équipes qui aiment bien les gros jeux, hein.
Deux équipes qui aiment perdre cruellement aussi.
Ouais, et j'allais dire, ils aiment bien les gros jeux, mais surtout en défense d'ailleurs. Seattle prend 434 yards par match sur le début de saison, ils sont 30e. Minnesota 420 yards par match, ils sont 28e. Qui va réussir le plus de gros jeux? Et on va dire offensivement et gagner.
Non, mais c'est ça le problème, c'est qu'on a deux défenses en mode porte ouverte. Moi, je regarde toujours qui est à domicile. Parce que moi, ça joue quand même. Donc là, c'est dans le dôme de Minnesota. Alors oui, il y a Russell Wilson d'un côté. Lockett, c'est très bien. Par contre, Chris Carson et DK Metcalf, il faudrait que ça se réveille. Du côté des Vikings, quand même, on a vu des belles choses offensivement contre les Cardinals. Ça commence à se mettre en place. Donc moi, j'ai envie d'y croire. Ah et ouais. J'ai envie de mettre les Vikings. Je change du coup le prono. Hein.
Ok.
Et je vais mettre les Vikings.
Ok, ben moi je vais rester sur les Seahawks. Quand ça se joue au gros jeu, ils sont plus réguliers. Minnesota, c'est une semaine sur deux pour l'instant. Donc je vais attendre de voir. Les San Francisco 49ers reçoivent les Packers à 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Ce sera la vengeance de la finale NFC de la saison 2019-2020. Green Bay était déjà vengé en saison régulière l'an dernier. Donc c'est pas tout à fait la vengeance tout de suite. Les Packers sont quand même très bien relancés. San Francisco est un peu poussif. Tu l'as vu contre Philadelphie la semaine dernière dans un match qu'ils auraient quand même très bien pu perdre. Donc moi, je vais aller sur les Packers parce que je pense que Aaron Rodgers s'est remotivé pour au moins quelques semaines.
Alors, je vais aller sur les Packers aussi. Par contre, quand même, grosse interrogation sur le pass rush des Packers. Oui. Ils ont fait un sack cette saison, pire bilan de la ligue. Zadarius Smith est en injury report, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il va falloir quand même trouver des playmakers. Alors, au niveau de defensive back, ça va. Hein, Jair Alexander, Eric Stokes, ça fait le boulot. Bon, Kevin King, catastrophique, mais on sait tous. Mais attention quand même, il va falloir que le front seven des Packers propose autre chose. Mais sur ce match-là, oui, j'ai pas été convaincu par les 49ers. Et j'ai l'impression que enfin Rodgers s'est réveillé. Donc allons avec le MVP en titre.
J'étais en train d'essayer de faire un truc un peu cruel. Je cherchais qui avait été sélectionné juste après Jordan Love, tu vas voir s'il n'y avait pas un pass rusher un peu qui avait un peu réussi, histoire de faire le troll. Mais bon, si tu, il y avait Yetur Gross-Matos au début du deuxième tour.
Au début du deuxième tour, oui.
Il n'y a pas d'énorme pass rusher juste derrière Love, hein, en tout cas au premier tour.
Non, au deuxième tour, il y a Gross-Matos. Vous allez voir Epenesa aussi, débile. Ouais, c'est pas mauvais cette année.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, il n'y a pas de truc qui peut faire rager éventuellement les fans des Packers dans la foulée immédiate. Donc, Packers pour tous les deux. Le dernier match, donc dans la nuit de lundi à mardi, à 2h15 du matin, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles. Ça défend pas mal des deux côtés. Du coup, on a été agréablement surpris par Dallas en début de saison. On en a parlé dans l'émission de mardi. Les Eagles, c'est solide sur les lignes, notamment donc défensive, avec un bon début de saison de ce côté-là. Est-ce que ça veut dire match fermé?
C'est solide sur les lignes, mais enfin, ça a quand même perdu Brandon Brooks et Brandon Graham.
Alors voilà, ouais, le problème, c'est qu'il y a déjà, des blessures. Ouais.
Quand ton edge numéro 1 et ton garde numéro 1 se blessent, c'est déjà compliqué. Pour l'anecdote, les Eagles, c'est zéro turnover en attaque et en défense sur les deux premiers matchs. Seulement la troisième fois d'histoire que ça arrive.
Attends, zéro en défense, ça veut dire qu'ils ont volé aucun ballon?
Oui, mais par contre, ils n'en ont donné aucun non plus. Ah, zéro en attaque, zéro en défense. Et pour le coup, non, Philadelphie, ça produit des yards, il y a du jeu. Mais alors, va falloir être efficace en red zone parce que ça les a tués contre les 49ers. Et même si la défense est meilleure que prévu et a fait deux premiers matchs, il va quand même falloir se coltiner les Amari Cooper, les Dak Prescott, les Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott, en général, s'amuse contre les Eagles. Michael Gallup aussi, mais là, il est blessé. Mais enfin, il y a Amari Cooper, il y a CeeDee Lamb. J'ai peur que ça soit un peu trop pour la défense des Eagles. Et je vois, mine de rien, un match où il peut y avoir des points. Mais c'est vrai que l'attaque des Cowboys semble la mieux armée.
Mais j'ai vu sur le tableau des pronos avant l'émission que tu nous fais une anti-Grégory Richard.
Ah oui. Alors là, je vais être tout à fait transparent avec vous. J'avais prévu de faire un Grégory Richard, c'est-à-dire de miser contre les Eagles toute la saison. Face aux Cowboys, je ne peux pas. Voilà. Je le dis. Et ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de Terrell Owens. Il faudra vous en prendre à Terrell Owens, mais depuis ce jour-là, je ne peux pas. Donc je vais miser les Eagles. Je mise à surprise, quitte à perdre un point par rapport à vous tous.
D'accord. Bon, bah, non, mais oui, je ne sais pas. Mais parce que tu en veux à Terrell Owens d'être parti, c'est ça?
Oui, et puis toutes ces déclarations après, quand il était au Cowboys.
Et du coup, depuis, tu...
Mais ouais. Moi, je ne suis pas du genre à détester les équipes de division ou quoi. Comme certains, enfin les rivalités, il y a un moment, on est en France, quoi. La rivalité seulement, entre Philadelphie et Dallas. Bon.
Mais seulement si Terrell Owens est
voilà,
parti là-bas.
À cause de Terrell Owens.
Ouais. Très bien. Bon, moi, je vais prendre les. J'aimais bien Terrell Owens. Je vais prendre les Cowboys. Il était fun quand il était à Dallas avec l'histoire de
Pop. Oui, mais même nous, il nous emmène au Super Bowl. Hein. Il fait 100 yards de Super Bowl sur une jambe, mais.
Un incroyable Super Bowl avec les Eagles, en effet. Cowboys pour moi. Je pense que leur défense peut tenir suffisamment et qu'en attaque, ils finiront par. Par mettre ce qu'il faut de points. Voilà pour les pronos de la semaine. C'est l'heure des cotes avec notre partenaire Unibet. Évidemment, votre détour pour les pronos NFL. Victor, est-ce que tu as une cote? Parce que moi, j'ai regardé un petit peu pendant que tu donnais tes pronos. Il y en a qui correspondent en plus avec tes surprises qui sont pas mal.
Oui, alors moi, j'ai Falcons à 2-12. Les Falcons à 2-12, pour moi, c'est vraiment une très belle cote.
Ouais, ben on est tout à fait d'accord. Et moi, je rajouterais, j'ai pris une meilleure cote que toi de 0,01 chez les Saints à 2,13. Parce que je les ai donnés donc, contre les Patriots. C'est un peu ma petite surprise à moi aussi. Donc, j'irai sur les Saints à 2,13. Et pour compléter un petit combiné à 3, là, on est sur du combiné risqué. Hein, attention quand même. Mais je dirais les Rams quand même, parce que tu les as donnés. Et c'est vrai qu'il y a des arguments contre les Buccaneers. Ils sont à 1,93.
dans moi, je te contrerai avec des Packers qu'on a tous les deux joués qui sont à 2,30.
Ah, mais j'avais pas vu. Ah, mais oui. Ah, bah oui, il vaut mieux mettre les Packers. Pour le coup, j'ai plus confiance en Packers à 2,30 que Rams à. Ah, bah oui. Donc, bah oui, en troisième, les Packers à 2,30. Clairement, j'avais pas fait gaffe. Ah, ouais, c'est marrant. Ça, San Francisco est sacrément favori à 1,50.
Ouais, ouais, hein. C'est incroyable.
Ah, ouais, je suis assez estomaqué. Très bien. Donc, 2,13 les Saints, 2,12 les Falcons, 2,30 les Packers. Donc ça, vous pouvez évidemment les jouer en individuel. Le combiné, si vous mettez 5€ sur ce trio-là, ça peut faire 51,93€. Et évidemment, vous retrouvez d'autres cotes sur les bons plans qu'on met sur les réseaux sociaux, notamment la petite vidéo maintenant que je fais toutes les semaines. Je tiens à dire que je suis à 2/2 sur les deux premières semaines. Oui, c'est ça. Je donne deux cotes par émission et je suis à 2/2 deux fois. Donc, je suis assez content de moi. Ça n'arrivera pas toutes les semaines. Évidemment, essayez de jouer de manière raisonnable et faites attention, par exemple, sur les combinés. Là, celui-là est un peu plus difficile. Donc, voilà. Bref, donc en tout cas, ouais, il y a des bonnes cotes. 2,30 pour les Packers et 2,12 Falcons, 2,13 Saints. Petit YOLO, tiens. Attends, on a trois cotes à plus de 2, donc on peut se rajouter un petit YOLO. Mais sans partir sur des trucs, parce que tu vois, les Jaguars contre les Cardinals, évidemment, c'est une grosse cote, mais c'est quand même du domaine de l'impossible. On avait dit quoi ? On avait dit les Rams, c'est 1,93. Je vais les rajouter. Tu crois vraiment en tes Eagles ? Ils sont à 2,40.
Y croire, c'est peut-être un peu ambitieux, mais c'est la NFCS, donc on ne sait jamais.
Allez,
ça ne serait pas la première fois. Mais...
2,40 et il m'en faut un sixième. Les Steelers à 2,30, c'est un peu contre les Steelers, j'ai du mal. Les Colts à 2,72, ça me paraît optimiste. Hein.
Ça paraît un peu optimiste pour le coup. C'est vrai que c'est les Dolphins, je sais pas, réveil de la défense qui contre fait le match Raiders. Parfait.
Je sais pas trop.
Ouais, je sais pas, moi j'essaye de t'aider. Hein.
Bon, non, écoute, c'est du YOLO. On a dénigré les Colts. On va dire le réveil de Carson Wentz. Bon, c'est du YOLO, hein, de toute façon. Donc là, ça nous fait Saints, Falcons, Packers, on vous l'a dit. Les Rams à 1,93, les Eagles à 2,40, les Colts à 2,72. 5€ misés, 706,20€ de gains potentiels. Ce qui veut dire que c'est notre référentiel. Vous ne l'aurez pas sur Paris à ce tarif-là. Bon, en petite couronne, vous pouvez peut-être espérer un studio, là. Non, même pas, hein, à peine.
Compliqué. Ça dépend quelle partie de la petite couronne, en fait.
Bon, voilà. Si vous voulez vraiment vous payer un loyer sur Paris, il faut mettre 10€ de mise pour 1,412€ de gains potentiels. Mais là, c'est à vos risques et périls, hein, parce qu'on est sur du YOLO. 1,400 balles. Bon, sur Paris, t'as presque 50 mètres carrés, quand même.
Ouais, mais enfin, là, le pourcentage de chances que tu aies touché.
Donc, mon conseil étant, jouez raisonnablement et vivez en province. Ça me paraît être quand même le beaucoup plus simple. C'est comme ça que se termine l'épisode 434 du podcast J'en Actu. On vous remercie de nous suivre. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. On remercie en détail hein, les noms à chaque fois. Si vous avez choisi la contrepartie remerciement dans le podcast, c'est toujours dans l'émission du mardi, je tiens à le préciser. Merci beaucoup, Victor.
Bien, merci à toi.
Et puis, on se retrouve donc dimanche dans le fauteuil. Ce ne sera pas moi, ce sera Lucas Vola et probablement Grégory Richard avec lui pour une émission un peu différente du format habituel. Et je les remercie de prendre le relais exceptionnellement pour ce dimanche. Moi, je reviendrai le dimanche d'après. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TJonActu, @VictorRoulier, tout attaché, toi, pour Twitter.
C'est ça.
J'ai tellement eu l'habitude de donner les mêmes à chaque fin d'émission pendant des années que je suis perdu avec toi et Lucas. Donc, @VictorRoulier, @AlainMattei pour les comptes perso. Vous nous suivez évidemment sur tdactu.com pour toutes les infos sur la NFL. Et encore une fois, je rappelle le programme de la fin de semaine, le fauteuil 18h dimanche, le débrief le mardi soir en podcast et la preview jeudi prochain. Très bonne fin de semaine à tous. Ciao, ciao.
Au revoir.
Jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Crocage Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on